Bonsoir. Ce soir, nous allons entendre une voix singulière, celle de Malika Mansouri, psychologue clinicienne, qui, pour la présenter très brièvement, a été appelée dans sa propre expérience, stupéfaite par des images et sans doute par des commentaires lors des émeutes de 2005 dans la banlieue parisienne, lors de la mort accidentelle de Zyed Benna et Bouana Traoré. Bonjour Malika.
Ça marche.
Bonjour Claire, bonjour à tous.
Est-ce que tu peux te présenter brièvement ?
Alors oui, tu as bien résumé. En fait, psychologue clinicienne depuis quelques années déjà. Je l'étais déjà en 2005 et rien a priori ne m'appelait à revenir dans le monde universitaire ou dans le champ de la recherche. Effectivement, j'ai été interpellée. Ma fonction alors était de m'occuper de la singularité, de la souffrance dans des lieux de soins, psy, en CMP, enfants et adolescents, et dans une unité parents-bébés, où a priori j'ai à m'occuper de ce qu'on appelle les dysfonctionnements de la relation précoce des parents et des enfants de 0 à 3 ans. Mais effectivement, j'ai été interpellée par l'actualité, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Mais quelque chose pour moi s'est passé d'une manière singulière, comme tu l'expliques très justement. C'est une impulsion, quelque chose qui vient de l'intérieur et qui m'amène à quelque chose de l'ordre de la contrainte à participer du discours collectif d'alors. Le discours collectif qui m'est apparu, moi, emprunt chargé de représentations négatives à l'encontre de certaines catégories de la population française. Ça a commencé en l'occurrence, tu m'arrêtes, hein, parce que moi, quand j'ai commencé, en fait, ça commence déjà, enfin, l'actualité est chargée hein, entre 2004 et 2005. En 2004, l'affaire du voile et les signes et la loi contre les signes ostentatoires à l'école. Là, je suis interpellée par ce que je l'entends, par les propos, par cette loi en l'occurrence. Ensuite, il y a l'émergence d'une association politisée qui se fait appeler les Indigènes de la République. Là encore, je suis interpellée. Ensuite, il y a beaucoup de choses, hein, notamment la loi concernant l'enseignement des aspects positifs de la colonisation en 2005. Et puis les émeutes de 2005, ce qu'on appelle les émeutes et que moi je préfère appeler révolte, les émeutiers que je préfère appeler les révoltés. Bon, ça s'explique, enfin, on comprend pourquoi à la lecture du livre. Eh bien, à ce moment-là, il y a ces émeutes qui interpellent, ces émeutiers qui posent question, qu'est-ce qui se passe pour eux ? Mais il y a aussi la loi. Ce qu'on appelle l'état d'urgence, qui a été utilisé pour faire cesser les émeutes. Donc là, on est dans le registre du politique. Une loi particulière qui a été créée en 1955, pendant la guerre d'Algérie, pour contrer un peu les indépendantistes. Voilà, une loi particulière, une loi d'exception qui permet justement d'être dans la non-loi, hein, hors cadre. Habituelle, sortie de là, on peut un peu tout s'autoriser. Alors cette loi a été utilisée précédemment dans les colonies, uniquement dans les colonies, et puis pour la première fois, elle est utilisée en France, sur le territoire métropolitain, en 2005, pour faire cesser les émeutes. Donc là, je suis encore plus interpellée. Et j'ai envie, à ce moment-là, interpellée aussi par les commentaires, tu le disais, les commentaires des politiques. Alors on entendait des tas de choses à cette époque-là. On entendait par exemple que ces enfants étaient de la racaille, que ces enfants étaient des étrangers, que ces enfants à expulser. Hein, de la... Alors on a entendu quelque chose qui ressemble à des délinquants à la parentèle étrangère dont il faudrait débarrasser le pays. Des formules comme celle-ci qui m'ont donné très fortement envie, moi, de participer du discours hein, la collectif pour tenter d'apporter au fond une autre voix à partir des perceptions que j'en avais, moi, et que j'avais envie d'aller vérifier. d'aller vérifier en donnant la voix aux principaux acteurs de ces révoltes.
Alors, et puis il y a les commentaires aussi des intellectuels, je crois qu'on aussi pourra y revenir. Alors, ça aboutit sur un travail passionnant, je dirais entouré par deux grandes figures de la psychiatrie et de la psychanalyse, Marie-Rose Moreau et Alice Cherki. Mmh. Donc, avec la première, donc le professeur Marie-Rose Moreau, il s'agit donc d'abord aussi d'une grande voix hein, de la psychanalyse et de ce que nous appelons l'ethnopsychiatrie, et puis aussi d'une certaine méthode bon, qui s'appelle pour nous le complémentarisme. Et avec la seconde, donc Alice Cherki, je dirais que c'est une des rares, peut-être la seule psychanalyste qui introduit la question de l'histoire dans la psychanalyse. On y reviendra. Alors, il faut avant tout signaler que le travail de Malika Mansouri a eu le prix Le Monde de la recherche universitaire. Et c'est vrai que c'est bien mérité parce qu'il apporte un éclairage absolument inédit sur les révoltes d'adolescence et sur notre propre histoire. Alors, Malika, tu as commencé à te présenter. Tu as présenté le contexte historique d'une impulsion, tu dis d'une contrainte interne. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu sur ta propre histoire, parce que tu l'abordes dans le livre, je voudrais que tu nous la rappelles.
Oui, alors, cette impulsion intérieure que j'ai, enfin, j'ai synthétisé ça comme ça, et tu as envie que je développe, c'est que 2005 a été une année particulière pour moi, personnellement, qui ai vécu la perte de mon papa. Et donc, mon père étant décédé, il m'est arrivé, cette année-là, quelque chose de singulier pour moi, et bon, on a tous à traverser des choses compliquées, mais ce qui fait la particularité pour moi de cette année, c'est que, alors que je n'en ai pas l'habitude, je me trouvais en Algérie à l'époque des émeutes, puisqu'il fallait aller enterrer mon père et son souhait était d'être enterré là-bas. Donc c'est à partir de l'unique chaîne de télévision algérienne de l'époque que j'ai eu, moi, à voir les images de ces révoltes. Et de commentaires assez particuliers des gens d'Algérie, en fait, de ma famille élargie, qui, voyant ces scènes de guérilla à la télévision, me disent « Mais enfin, qu'est-ce qui leur prend aux Arabes de France ? Qu'est-ce qui leur prend aux Arabes de France ?» Cette question, elle est quand même sidérante. C'est-à-dire que je n'ai pas très bien su leur répondre. D'ailleurs, je n'ai pas su leur répondre du tout. Je me suis posé des tas de questions, en tout cas, à partir de cette question-là. D'ailleurs, pourquoi pensent-ils que ce sont des Arabes de France ? Qui serait dans ces scènes de guérilla. Et ensuite, si effectivement... et ensuite, la deuxième question, oui, c'est et quelle distinction ils font entre les Arabes de France et les Arabes d'ici ? Les Arabes de France ne seraient plus hein, les Arabes du Maghreb, ils sont bien ceux de la France, qu'elles le veuillent ou non. Les Français d'origine maghrébine sont d'ici pour ceux de là-bas, en tout cas. Qu'est-ce qui leur prend aux Arabes de France ? Voilà. D'accord. Sans entrer dans le vif. De toute façon, je le décline un petit peu, mais bon, c'est une façon, dans la méthodologie complémentariste, justement, que propose Marie-Rose Moreau, dans la continuité de Georges Devreux. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un anthropologue et psychanalyste qui a amené une idée que développe aussi Edgar Morin, d'ailleurs, dans le champ de la philosophie, c'est que pour comprendre un phénomène, finalement, une seule théorie ne suffit pas. On peut tout ajuster avec une seule théorie, mais pour bien comprendre un phénomène, il est toujours intéressant de puiser les savoirs dans des théories multiples. Et en l'occurrence, c'est ce sur quoi, c'est ce avec quoi j'ai travaillé, effectivement.
Oui, Edgar Morin ne l'appelle pas le complémentarisme, d'ailleurs.
Hein. Il n'appelle pas le complémentarisme,
mais le dialogisme, plutôt.
Oui,
non,
l'interdisciplinarité oui, aussi.
Voilà. Alors, donc la méthode, en fait, que tu as empruntée, c'est une méthode propre aux sciences humaines, c'est-à-dire aller, comme tu l'as dit, à la rencontre des jeunes. Hein, c'est ça. Mm-hmm. Alors, tu en parles un petit peu, effectivement, la façon dont tu es rentrée en contact. Et j'aimerais bien que tu nous expliques comment tu as fait. Et puis, comment, pour eux, on voit bien que certains, d'ailleurs, te recherchent. Est-ce que le fait aussi qu'ils perçoivent en toi quelque chose, un écho dans l'histoire, a été décisif ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Ils me recherchent ?
Oui, il y en a un qui est très partie prenante. Il y en a Alors, j'irais juste une composition dans ton livre, c'est qu'on a l'impression que tu commences par le discours le plus sec pour aller vers le discours le plus flamboyant. Je ne sais pas si tu as mesuré cela hein, avec des ados. Hein, la question, alors c'est des ados ou des jeunes adultes quand même, oui. Qui pour certains ont une parole très empêchée, hein, très anone en fait. Hein, mmh. Il y en a un particulièrement. Et puis le dernier, enfin on y reviendra, mais il y a une vision d'eux-mêmes quand même qui est très élaborée. Hein.
Tout à fait. Mmh. Alors, ça aussi, c'est particulier, c'est-à-dire que quand je dis complémentarisme ou interdisciplinarité, ou etc., on peut l'appeler comme on veut, ça veut dire penser à partir de là où je suis formée, moi, c'est-à-dire la psychanalyse et la psychologie, et en même temps questionner l'histoire, avec l'idée d'interroger finalement les effets. De l'histoire des violences du passé colonial et les conséquences psychiques, les effets subjectifs et les conséquences psychiques des violences de l'histoire coloniale chez les descendants de ceux qui l'ont vécu. Pourquoi ? Peut-être que c'est important de le préciser quand même, parce qu'on s'oriente d'emblée comme ça sur cette population, ça n'est pas un hasard, c'est-à-dire que si dans le social et dans le politique, à l'époque, ils ont été désignés comme tels, comme des étrangers, hein, quasiment à expulser, ou de la racaille à nettoyer. En réalité, moi, je me suis appuyée sur une étude sociologique qui a déterminé le profil des émeutiers. Une étude sociologique de Mukili et Delon en 2006. Et eux ont effectivement, à partir d'une rencontre avec des jeunes interpellés au tribunal de Bobigny, ils ont mis en évidence qu'il s'agissait effectivement d'adolescents. Les émeutiers étaient des adolescents d'une moyenne d'âge de 16 ans, qu'ils étaient issus de milieux sociaux assez précaires. Différentes choses. Et en l'occurrence, à partir des noms et des prénoms, ils ont pu déterminer effectivement une origine. Donc, ils ont pu déterminer qu'ils étaient tous quasiment français. Bien français, mais avec une origine majoritairement maghrébine pour 55% à peu près, puis d'Afrique subsaharienne pour 25% à peu près. Voilà. Et donc, moi, j'ai eu envie d'aller à la rencontre de cette jeunesse française, considérée comme singulière depuis longtemps, et qui est singulière du fait même de cette organisation sociale et ça je le décline à un moment donné qui émerge dans leurs propos du paradoxe en fait d'être et de ne pas être à partir d'injonctions sociales particulières hein, qui empêchent hein, voilà donc je suis allée à la rencontre de ceux qui étaient majoritairement identifiés dans cette recherche d'origine maghrébine et plus particulièrement algérienne proportionnellement et en même temps effectivement ça a été le fait que je sois moi rattachée à cette histoire, mon nom le dit hein, simplement déjà et bien ça a été quand même aidant. Pourquoi ? Parce que ces jeunes n'ont pas envie en fait de participer facilement hein, à la recherche, de répondre aux journalistes, etc. Parce qu'ils ont des vécus comme si leurs paroles étaient utilisées hein, toujours en contre. Donc il y a toujours cette crainte et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à les rencontrer finalement, beaucoup beaucoup de mal. Maintenant ce nom que je porte a été aidant, la fonction que j'occupe n'a pas du tout été aidante, au contraire, parce qu'un psychologue c'est pas mieux, hein. Ça fait des catégories, ça désigne des névrosés, des psychotiques, des psychopathes, etc. Et donc dans le social s'il y a des étiquettes qui sont posées, un psy peut en rajouter de nouvelles et ça c'était un petit peu le handicap. Bon. Je pense que ce qui a permis effectivement qu'on se rencontre c'est quelque chose d'une histoire commune. Mais c'est aussi le temps que j'ai pris, c'est-à-dire que je me suis installée dans certains quartiers, dans certaines cités, pour faire un petit peu encore un autre domaine des théories, des mondes théoriques, des sciences, c'est l'anthropologie. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle un petit peu l'anthropologie chez soi, c'est-à-dire que je me suis installée dans certaines cités, dans des antennes jeunesse, etc., pour que je m'habitue au paysage et que cette jeunesse s'habitue à moi dans leur paysage. Et je les ai donc rencontrés sur leur terrain, hein, pas dans le champ de la clinique. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Si,
oui,
fait.
Voilà.
Est-ce qu'il y en a un qui t'a le plus marqué aussi? Je me suis demandé. Dans...
Alors, je crois qu'ils m'ont tous beaucoup enrichi, très franchement enrichi. J'ai été très, très fortement touchée par un grand nombre. Un en particulier m'a beaucoup émue, qui transportait énormément de désespoir et une intelligence incroyable, mais déscolarisé à l'âge de 16 ans. Quand je l'ai rencontré, il avait 19 ans. Il avait bien sûr activement participé aux émeutes, entre guillemets, mais un très fort désespoir. Et voilà, et il me faisait un grand cadeau en me racontant son histoire. Et je repartais comme ça, et c'était très difficile pour moi. Alors, j'ai d'ailleurs tenté par la suite de rencontrer des professionnels de terrain pour pouvoir l'aider. Je suis revenue et je ne l'ai pas retrouvée parce que c'était la promesse de l'anonymat, et donc c'est ce que j'essaye de respecter encore et toujours. Et je n'avais pas pris son numéro de téléphone et je n'ai pas pu le joindre et je ne l'ai pas retrouvé dans son quartier au moment où j'y suis retrouvée. Voilà, donc, mais un grand, grand désespoir et j'en suis marquée quand même de ces rencontres.
Ouais. Et pas de filles.
Belle rencontre, pardon.
Belle rencontre. Et oui. Des filles alors, pas de filles.
Alors pour cette recherche, je n'ai rencontré exclusivement que des garçons parce que elles étaient menées exclusivement par des garçons. J'ai néanmoins rencontré une jeune fille parce que je l'ai fait cette recherche sur la base vraiment de l'ouverture à la fois anthropologique, mais ce n'est pas non plus une recherche en psychologie, c'est un lapsus énorme, c'est plutôt du côté de la psychanalyse, on va dire. Et donc, justement, du côté de la psychanalyse, le propre de la psychanalyse étant de se laisser surprendre, je suis allée quand même à la rencontre de ce qui se donnait à rencontrer, à entendre et à découvrir. Et donc j'ai comme ça rencontré, oui, une jeune fille qui était intéressée par la question et qui avait envie de me poser des questions, sachant que je travaillais sur ces questions. Et donc je lui en ai posé aussi. Et j'ai donc mené un entretien avec cette jeune fille que je n'ai pas exploité pour cette recherche-là. Voilà, c'est une recherche académique, il faut faire l'entonnoir. Mais que j'exploiterai garde. Probablement dans un second temps pour ces questions-là. Voilà.
Voilà. Donc, quand on lit donc le témoignage de ces jeunes, ce qui est très surprenant, c'est qu'ils produisent déjà un savoir sur eux-mêmes. Ça m'a beaucoup étonnée. Oui. Et en dehors du fait que c'est un ouvrage très construit, si tu as été honnête, et je pense que tu l'es, donc tu as rapporté vraiment leurs paroles, et c'est vrai qu'ils ont un savoir sur eux-mêmes, ils ont toute une théorie sur eux-mêmes. Donc je me suis demandé pourquoi, comment ils avaient construit ce savoir-là sur eux. Alors on va voir dans tout l'ouvrage l'importance de la mémoire familiale, ça c'est vraiment quelque chose de très fort. La diffusion de l'affect, de la haine, ce qu'ils appellent la haine, qui joue probablement, et de l'humiliation. C'est ça, je pense que c'est une dimension très importante. Mais on se demande par ailleurs comment ils arrivent parfois même à théoriser l'articulation donc, de leur propre histoire et de l'histoire de la colonisation. Et je réfléchissais, je me disais pourtant, est-ce qu'il y a un discours ambiant là-dessus dont ils ont pu aussi s'imprégner? C'est pas à l'école qu'ils ont appris ça c'est sûr. D'ailleurs, ils sont très critiques à l'égard de l'école. Justement, pour reprendre la question des intellectuels qui ont d'ailleurs commenté, beaucoup d'entre eux disaient, ça n'a rien à voir le fait qu'ils soient noirs, arabes, ça n'a rien à voir, c'est juste une question sociale. Je sais pas si tu te rappelles, mais ils le martelaient beaucoup. Donc, voilà. Donc, est-ce que toi-même, tu as été surprise par ça, par le fait qu'ils produisaient déjà un savoir sur eux-mêmes, sur une articulation entre leur passé familial et leur condition?
Non.
Bon.
Pas surprise, non. Non, non. Ce qui était compliqué, c'était peut-être de mettre des mots pour certains qui n'avaient pas les mots pour le dire. Hein. Pour le coup, là, tout le monde connaît ce genre d'expression. Mais étonnée, non. Moi, je suis assez convaincue aujourd'hui que, depuis longtemps d'ailleurs, que ben, voilà, les enfants sont comme des éponges. Les enfants sont comme des éponges et que ils aspirent hein, tout ce qu'il y a d'émotion, justement dans les histoires de non-dit, de silence. Hein. Ce sont des éponges qui s'imprègnent d'emblée de tout ce qui concerne les souffrances actuelles ou passées de leurs parents. Et c'est vrai, c'est universel, il n'y a pas besoin de venir d'une
mais
histoire.
Ça, c'est pas ça qui est étonnant, mais c'est le fait qu'ils produisent déjà un savoir là-dessus, si tu veux. Toi, en tant que chercheuse, tu as comme mission d'interpréter justement cette question-là.
Alors non,
ils ont déjà, on dirait qu'ils ont déjà fait une recherche sur eux-mêmes, tu vois. Enfin, alors pas tous, évidemment, pas au même
niveau,
mais ils ont déjà un savoir là-dessus. Ouais. Et c'est d'autant plus étonnant, je te dis, que c'est un savoir, alors pour le coup, qui me semble marginal et qui justifie effectivement une vraie
mais je
production
te réponds
littéraire.
Toujours, ouais. Je te réponds toujours non. Parce que je ne suis pas étonnée. C'est-à-dire que j'ai accompagné un petit peu ça. Je suis allée chercher quelque chose de réponse dans ce sens-là. Et je crois fortement à la notion de transfert et de ce qui peut passer de l'un à l'autre dans les échanges et de ce qui était attendu et qui, comment ils sont allés puiser en eux quelque chose justement sur ce registre émotionnel et tenter de mettre des mots là-dessus. C'est-à-dire qu'au fond, mon but en faisant cette recherche, c'était justement surtout de ne pas interpréter.
Donc c'est un savoir individuel sur eux-mêmes.
C'est un savoir individuel toujours.
D'accord.
C'est un savoir individuel toujours et il est parfois fantasmé. C'est pas une connaissance de l'histoire comme l'histoire dans les livres pourrait nous la raconter. Mais c'est un savoir émotionnel sur l'histoire. C'est justement ça. Avec, dans ce travail, comment dire, je n'ai justement pas souhaité interpréter. Tout le monde les interprète, ces enfants. Tout le monde les interprète, ces adolescents. Les sociologues, tout le monde, on les pense tout le temps. On les pense de multiples manières. On les défend ou on les attaque, mais on les pense. Et moi, j'avais envie, l'espace d'un instant, plus qu'un instant, puisque les entretiens duraient parfois une heure et demie quand c'était possible pour eux. C'était très libre, donc c'était comme c'était possible pour eux. Eh bien, c'était de leur donner un espace de pensée pour eux-mêmes, sachant que c'était une recherche et que leur parole allait être portée, et j'espère pour le plus grand nombre. Donc ils en savaient quelque chose de ça. Et pour la première fois, au fond, ce que Alice Cherki appelle les espaces de métaphorisation, il leur était donné de pouvoir penser leurs émotions, penser ce qu'ils transportent en eux d'histoire et qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de penser jusque-là, avec une histoire qu'ils réclament à l'école, parce qu'ils en savent quelque chose justement. Mais qui ne vient jamais. Alors quand elle vient depuis ces dernières, on ne peut pas dire que l'histoire n'est pas transmise ces dernières années, mais elle est transmise et ils le disent très bien, ils le disent très bien de manière factuelle, comme un dire gelé, sans émotion. Eux transportent les émotions liées à cette histoire, le sentiment d'humiliation dont tu parlais, le sentiment de réduction de l'autre, d'infériorisation par le social et le politique, etc. Donc, mais moi aussi j'en savais quelque chose avant de lire les livres. Donc non, je ne suis pas étonnée. Je sais que si on peut donner la parole à ces enfants, quelque chose émergera de ce savoir, parce qu'ils en savent quelque chose de façon tout à fait individualisée. Après, il faut qu'il y ait un travail collectif en France, et puis peut-être de part et d'autre des différents territoires concernés par ces histoires.
Alors justement, sur les lieux, alors tu dis métaphorisant, c'est le terme de Alice Cherki.
Métaphorisation.
Oui. Pour moi, j'avais compris que c'était des lieux collectifs. C'est ce qu'elle appelle de ses vœux. Mais on voit bien que, pour le coup, tu as créé un lieu métaphorisant. C'est-à-dire que, pour moi, les lieux de psychothérapie sont aussi des lieux métaphorisants. Alors, ce sont le début. Alors, je ne sais pas, ce sont des initiations à des lieux métaphorisants. Tu vois ce que je veux te dire. Et ça, c'est toujours un terme chez Alice Cherky qui m'étonne. Je ne sais pas de quoi elle veut parler, si ce n'est effectivement des lieux d'histoire, hein, des lieux extérieurs de l'histoire de France. Mais est-ce que tu peux... Non. Comment tu le comprends?
Des lieux de métaphorisation, ouais. c'est des lieux où il est possible d'élaborer enfin, finalement. Des lieux qui pourraient...
Oui, mais collectivement aussi.
Mais elle propose ça pour cette jeunesse-là. Mais néanmoins, ça peut prendre toutes les formes que l'on souhaite. Ce que ça veut dire, c'est que les gens issus de cette histoire collective, au sortir de cette histoire, au sortir entre guillemets, parce que après les indépendances, il y a eu néanmoins l'après des indépendances et les conséquences de toute cette histoire coloniale et de ces guerres d'indépendance, ou, etc. Et voilà, il y a les cendres de l'après. Hein. Mais ce qui s'est passé, c'est que, au fond, pour ceux qui ont vécu cette histoire-là, il n'y a pas eu d'espace de métaphorisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de possibilité de trouver des lieux pour pouvoir élaborer ça. Les traumatismes, les douleurs, les pertes, les ruptures. Il a été décidé que c'était terminé. Voilà, c'est comme si tout à coup... Bon, cette histoire est terminée, et c'est vrai pour tous ceux qui sont concernés pour cette histoire, au fond, de part et d'autre, hein, pas seulement pour cette jeunesse que moi j'ai rencontrée, et qui est finalement une partie de la population concernée par cette histoire collective. Bon, il n'y a pas eu de possibilité d'élaborer pour les parents. C'est bien pour ça que ça se transmet, c'est ça le silence. Il n'est pas seulement fabriqué par les personnes qui sont directement concernées et qui le portent, mais bien par l'organisation sociale et politique. Accord d'Évian, fini l'indépendance donnée, on n'en parle plus. Et surtout, on s'assoit sur ce qui a fait trauma. On s'assoit sur les criminels de guerre de part et d'autre. On n'en parle plus, c'est terminé. Mais pour les gens individuellement, qui ont des vécus douloureux, qui ont des vécus traumatiques, ça ne peut pas se terminer. Mais néanmoins, ça doit s'arrêter. Il n'y a pas de lieu pour le penser, pour pouvoir amener des mots. Mettre en mots, ça permet de faire sortir ça, de transformer à un moment donné et de passer à autre chose. Ça permet en fait d'oublier véritablement. Or là, ça n'a pas été possible. Sans élaboration des douleurs vécues, il n'y a pas de possibilité d'oubli. On croit qu'on a oublié, mais ça n'est pas vrai. Ça reste bien là, à l'intérieur de soi, et ça travaille les individus de l'intérieur sans qu'on ne sache même plus d'où ça vient et de quoi ça parle. Eh bien, là, pour le coup, c'est ce qui s'est passé. Donc, créer des espaces de métaphorisation aurait été possible pour ces personnes issues de ces histoires collectives, déjà, et qui l'ont vécu directement. Et ça a continué. C'est-à-dire qu'on a fait silence sur tout ça. Et même d'une façon... Alors, on peut dire dénier, quoi. Hein. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ce qui a été vécu n'a pas été vécu. C'est un peu comme ça que le raconte Alice Cherky. Voilà. Ce qui a eu lieu n'a pas eu lieu. Mais quand on fait ça, face à... Là, on en est à la quatrième génération des descendants qui portent l'héritage de cette histoire en eux, émotionnellement. Eh bien, on continue de dire ce que tu ressens en toi, ça n'est pas vrai. Mais ça fait des dégâts incroyables. Parce qu'il n'y a pas pire violence que le silence sur les violences. Il n'y a pas pire violence que ce silence-là. Alors, des lieux de métaphorisation peuvent prendre plusieurs formes. Oui. Pour cette jeunesse spécifiquement, si elle pense le collectif, le groupe, c'est parce que c'est plus intéressant souvent. Pourquoi ? Parce que lorsque les choses sont enquistées, et que les souffrances sont reliées à des événements collectifs, à l'histoire. Et il faut pouvoir se dégager, là, pour le coup, dans... On parle du vivre ensemble, par exemple. C'est quelque chose qui se noue du côté de l'interaction, de l'intersubjectivité. Mm-hmm. Oui. Tant qu'on n'a pas dépassé ce qui fait nœud dans l'intersubjectivité, comment travailler sur l'intrapsychique? C'est ça que ça veut dire. Donc, dans le collectif, on va pouvoir faire un travail inter, questionner les histoires collectives, peut-être, et tenter de dépasser ce nœud-là pour ensuite travailler la question individuelle, la question de l'intime pour soi-même.
Alors justement, dans la forme de ton livre, tu commences par nous raconter l'histoire de la colonisation et de la décolonisation. Et je me suis demandé pourquoi tu avais commencé par ça. Parce que, au fond, tu fais le contraire du travail d'écoute pour n'importe quel psy, finalement, psychothérapeute comme je le suis, c'est-à-dire qu'on commence par écouter et après vient se nouer alors, la question de l'interprétation et de la recherche. Et toi, tu fais le contraire, finalement, pour ton lecteur. C'est-à-dire que tu vas lui livrer cette histoire absolument terrifiante, hein, il faut bien le dire. Et du coup, c'est une question. Hein, je me suis demandé si, du coup, ça ne surinterprétait pas le discours des jeunes, tu vois. Alors que tu aurais pu amener le lecteur à faire le contraire, à être dans ta position où tu as été. Alors, bon, avec une histoire un peu particulière, puisque toi, probablement que tu la connaissais déjà un petit peu plus que, je dirais, le
coup d'âme. Pas tant que ça, hein, pas tant que ça. C'est vrai que ça n'est pas diffusé et que le travail des historiens n'est pas suffisamment proposé à la connaissance de. C'est surprenant parce que les historiens font un gros travail, mais ça n'est pas transmis comme ça le devrait.
Donc, dans la réalité, tu as lu après avoir écouté alors. Et pourquoi alors, tu n'as pas
alors non, mais je vais expliquer pourquoi. Alors non, je vais expliquer pourquoi. Je pense que justement, et c'est quand même en savoir quelque chose de ce que peut transporter l'autre dans ses bagages, dans le champ du transculturel, tu connais un peu quand même. Aller s'informer, connaître, savoir. De quoi il retourne ? Comment je peux entendre ce que l'autre me dit si je n'en sais rien de cette histoire-là ? Je passe à côté. Il y a, depuis ce bouquin, une psychiatre et psychanalyste qui m'a interpellée et qui me dit « C'est formidable, j'avais une patiente depuis longtemps dans mon cabinet. Et enfin, à la lecture de ce livre, je comprends qui sont les fantômes dont elle me parle. » Voilà, ça c'est la métaphore de ma proposition. Il y a un deuxième niveau, c'est que il y a un problème pour moi qui est d'interpréter un peu trop, justement, dans tous les champs théoriques, ce qui pourrait être le comportement de ces enfants-là. Oui, alors et en plus en plein de représentations négatives. Donc moi, je ne voulais surtout pas faire un travail d'interprétation. Ce que je voulais, avant tout, c'est que le lecteur puisse faire lui-même ses interprétations. Voilà. Ce que je veux
donc
dire.
Donc tu fournis du matériel.
Je fournis du matériel. Ouais. C'est-à-dire que ce que je fais, au fond, c'est la base même du champ de la psychanalyse. Comme dans la cure analytique. C'est-à-dire, non pas d'associer moi pour le lecteur, mais de permettre au lecteur de faire ses propres associations à la lecture de ce travail. C'est-à-dire que s'il lit d'abord l'histoire et qu'il écoute dans un second temps ses adolescents, ses grands adolescents, mais qui étaient adolescents pendant les émeutes, il ne peut que faire un parallèle, le lecteur, entre ce qu'il entend dans les propos des jeunes et ce qui était de l'histoire, potentiellement venant faire lecture pour ces jeunes du monde contemporain. On ne peut pas faire autrement que d'entendre lorsqu'on écoute ces jeunes. Mais si on n'en connaît rien de l'histoire, on se demande ce qu'ils se racontent. Et puis, on parle de victimisation, voilà, communément. C'est bien ça qui revient régulièrement. Et oui.
Je suis d'accord avec toi, mais... Alors, pour parler de ma propre expérience, quand on écoute, j'ai plein d'exemples, certaines situations dont on sait, alors évidemment, avec notre bagage transculturel, avec les apports de plein de collègues, que l'histoire avec un grand H est forcément importante. Moi qui reçois beaucoup de réfugiés politiques, je le sais. Mais dans la réalité, c'est le travail souvent inverse qu'on fait, c'est-à-dire qu'on écoute. Et c'est dans les blancs ou dans ce qui se répète que tu dis là, il faut que j'aille aussi me tourner du côté de l'histoire. Oui. Et bon, ce qui est très compliqué parce que là, je m'occupe d'une jeune fille, d'une très jeune fille qui vient du Soudan, du Darfour, et qui a justement beaucoup de ce que tu appelles le su-insu. Ça, et moi-même, je suis très en difficulté de trouver une histoire correcte là-dessus. Donc, je vais faire avec ce que je sais, c'est-à-dire très peu. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que la dimension historique, elle est fondamentale. Mais souvent, c'est l'inverse qui se passe avec nos patients. Autant il y a des histoires qu'on connaît mieux, mais il y a des histoires qu'on ne connaît pas du tout. Des histoires avec un grand H. Oui. Tu vois ce que je veux te dire ?
Oui, oui, bien sûr.
Et qu'en fait, il y a une écoute. Il faut accommoder notre oreille, justement, pour étirer les trous, les paroles, dans plein de directions. Hein, la question de l'inconscient et de l'histoire individuelle et aussi de l'histoire collective.
Mais là, on n'est pas en thérapie individuelle. Là, on n'est pas en thérapie individuelle.
Oui, mais on est dans le champ de l'interprétation quand même.
On est dans la tentative de compréhension d'un phénomène collectif. qui s'est réalisé à partir d'une multitude d'individualités, bien sûr, et j'en ai rencontré un certain nombre. Si je veux permettre aux uns et aux autres d'entendre que ce qui est proposé comme réponse dans le social n'est pas juste, il est, et que je postule, comme Alicia Keys, qu'il y a un déni de l'histoire, je n'ai pas d'autre choix que de restituer un peu de cette histoire.
Avant,
il y a un déni de l'histoire. Bon, on aurait pu le mettre après.
Et on aurait c'est la pu... question, hein.
J'ai bien compris, mais j'ai bien compris ta question. Simplement, si je le mettais après, il aurait fallu peut-être que lors de la lecture de ces entretiens, que je restitue quand même alors dans le livre, pas complet, hein, la thèse fait 400 pages, le livre c'est beaucoup restreint, la exigence éditoriale évidemment, mais si j'avais mis ça après, le lecteur qui n'est pas psychothérapeute ou psychanalyste aurait ou bien eu à aller fouiller à la fin du bouquin pour comprendre ce qui s'est dit avant, ou peut-être aurait n'aurait peut-être pas entendu toutes les étapes du discours proposé par les jeunes. Je ne sais pas. Alors, mais pourquoi pas ? On aurait pu faire ça aussi. L'essentiel, c'était que ce ne soit pas ma seule interprétation. Ouais. Je pense que c'était mieux à l'avant.
Tu analyses dans le livre le rôle de la police et de l'école. Bon, c'est vraiment très intéressant. Une police donc, qui persécute et une école qui exclut. Je voulais lire quelque chose sur la police. Pour ces adolescents français, cette police raciste, première figure représentative de l'État, ne les aime pas et le leur montre au quotidien, jusqu'à tuer parfois, disent-ils, comme c'est le cas pour donc Ziad et Bouna, mais aussi tous les autres avant eux. Par la transmission d'un reste innommable où se joue le lien social autant que familial, réapparaît le raté de la transmission, ce qui n'a pas été symbolisé et qui surgit comme réel, le réel du silence sur l'oppression et la persécution, le risque quotidien d'une mort réelle et ou symbolique. Voilà, je voulais que tu nous commentes ce tout petit... ces quelques lignes.
Je n'analyse pas nécessairement police ou école. Ce que je fais, à partir de la méthodologie que j'ai utilisée et d'un outil méthodologique d'analyse du discours, enfin bon, c'est un travail universitaire, hein, donc c'est cadré avec des obligations, etc. Donc là, j'utilise une technique d'analyse d'entretien qui permet de dégager un certain nombre d'axes qui vont être des points communs à chacun à un moment donné dans une espèce d'analyse transversale où on va croiser les entretiens et mettre en évidence ce que l'on retrouve dans le discours de chacun. Hein. Ce que l'on retrouve dans le discours de chacun, je l'ai simplement proposé à la lecture. Voilà. Il y a le rapport à la police. Le rapport à la police qui est vraiment vécu d'une manière tout à fait singulière. Le rapport à la police, cette police qui représente pour chacun, et ce, quel que soit le niveau scolaire, c'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'il ne s'agit que des enfants, des adolescents exclus du système scolaire dès l'âge de 16 ans, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que là, j'ai rencontré une population de jeunes qui va de l'exclusion scolaire à l'âge de 16 ans jusqu'à licence de psychologie. Voilà. Donc, on a des niveaux totalement différents au niveau inscription sociale et scolaire. Eh bien, chez chacun, on retrouve un rapport ambigu au corps policier vécu comme une armée d'occupation. Voilà. La police est une armée d'occupation, fantasmatiquement, c'est ça. Elle est vécue comme la première figure de l'État. C'est-à-dire que, paradoxalement, ce n'est plus tant des policiers que l'État qui descendrait dans la rue à proximité de chez eux et qui aurait cette fonction de domination comme ça, qui agirait comme une armée d'occupation de leur territoire dans la cité. Et alors, quand ils parlent de la police, ce ne sont pas mes mots, hein, ce sont les leurs. Ils parlent d'oppression dans la cité, de persécution dans la cité. Voilà, Je les cite. Mmh. Ce sont eux qui disent ça. Tous, quasiment. Voilà. Donc, la chose particulière aussi, c'est que ces mots, oppression, persécution, sont ceux utilisés pour parler des temps, du temps des colonies. Voilà. Et ils utilisent exactement la même terminologie pour parler de l'histoire de leurs parents, dont en réalité ils ne savent pas grand-chose a priori, ce fameux su insu que tu pointais. Voilà. Ils savent des choses émotionnellement, ils ne les savent pas toujours intellectuellement parce que ça n'est pas diffusé comme ça le devrait, d'abord. Hein? Mais quand ils en parlent de ce temps-là, pour parler de leurs parents, eh bien ils utilisent exactement la même terminologie que celle qu'ils utilisent pour parler de leur monde contemporain à eux et de leur rapport aux policiers. Voilà ce que ça veut dire, ce passage qui synthétise tout un chapitre sur leur rapport au corps policier.
Bon. Je voulais savoir si tu avais lu l'ouvrage de Hugues Lagrange, Le déni des cultures, et le livre aussi de Didier Fassin
pas encore,
sur la police.
Faut que je lise. Fassin, oui.
La force de l'ordre, anthropologie de la police des quartiers. Oui. Alors, Hugues Lagrange, je le cite parce qu'il a écrit, c'est un sociologue, un livre qui s'intitule Le déni des cultures. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec son analyse anthropologique, mais il démontre vraiment l'exclusion de l'école. C'est vraiment un travail très pointilleux et vraiment très, très intéressant. Oui. Bon, quant au livre de Didier Fassin, il a fait une enquête véritablement sur la police. Et je trouve que c'est important aussi de voir ce qui se passe aussi pour cette police qui, effectivement, a des contraintes importantes. Et ce qui est, je trouve, saisissant dans ton livre, c'est comment, effectivement, le premier rapport à l'État est le rapport à la police. Quoi.
C'est ça.
Et qu'on est, effectivement, tenté par rejoindre un certain nombre de nos collègues anthropologues qui parlent d'État xénophobe. Tu serais d'accord avec l'État français xénophobe ?
Qui dit ça ? Oh là, la question.
Ah ben, y a,
L'État français xénophobe, on ne peut pas dire ça quand même. Ouais. On ne peut pas dire ça. J'espère que non. Hein. Je ne pense pas, non. Par contre, on peut s'inquiéter de ce qui se passe actuellement dans le social, c'est vrai. Que l'État soit xénophobe, je ne pense pas, non. Vraiment, aucun doute là-dessus. Par contre, je pense que l'État peut-être devrait. Que devrait faire l'État face à la xénophobie qui peut s'exprimer par ailleurs dans la société française à certains endroits. En tout cas, ne pas laisser à la banalisation, quoi. Mais je ne pense pas que ce soit le cas en plus. Hein, donc vraiment non, quoi, clairement. Mm. Je ne sais pas très bien quoi dire d'autre, sinon non.
Bon, à suivre.
Non, je ne pense pas ça. Alors, je pense qu'il y a des gens qui sont xénophobes. Voilà, je ne pense pas que l'État soit xénophobe. Je pense qu'il peut y avoir des policiers xénophobes. Je ne pense pas que le corps policier dans son intégralité soit xénophobe, etc. Enfin bon,
tout à fait,
c'est des nuances. On est quand même... Et heureusement, quand on travaille avec la singularité de l'être humain, on sait combien chacun est justement singulier. Et quelles que soient ses affiliations, on ne peut pas juste généraliser comme ça. Ce serait une catastrophe.
Donc, évitons la catastrophe. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je voudrais, avant de te donner la parole pour conclure, dire que je voudrais d'abord dire, tu seras sans doute d'accord avec moi, qu'il y a un hommage à Frantz Fanon,
oui.
Qui est le premier, je dirais, dans notre histoire de la psychiatrie, mais aussi de la psychanalyse, qui a articulé pour moi le psychisme et l'histoire.
Tout tu es d'accord fait, avec ça complètement. Ouais. Il est d'ailleurs une des personnes essentielles de ce travail. Je me suis beaucoup appuyée sur ses réflexions pour pouvoir...
Tout à fait, il y a tout un chapitre intéressant sur... Oui. Voilà, alors je voudrais que tu conclues rapidement sur qu'est-ce que tu pourrais nous transmettre, quel est le message très important là, que tu aurais... avec lequel il faut qu'on reparte tous, et puis avec ton livre, bien sûr, en plus, sur ce que tu as appris auprès de ces jeunes.
Et ce que j'ai appris auprès de ces jeunes, c'est que, contrairement à ce qui est pensé, ils sont français intimement. Hein. L'un d'entre eux l'évoque très douloureusement, mais en même temps de manière si claire. Il dit, mais, et c'est le propre de l'adolescence, ça, en plus, hein, d'être comme ça, de se confronter au regard de l'autre. Et mais comment me dire français ? Comment pourrais-je décider que je suis français quand, dans le regard de l'autre, je vois bien que je ne suis pas vue comme un Français ? Silence. Il n'y a rien d'autre à dire, hein ? C'est eux qui parlent. Moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire que lisez-les, écoutez-les, ces enfants, ils disent des choses très fortes. C'est-à-dire qu'ils n'aspirent qu'à être. Je n'aime pas le mot intégré, donc on va l'enlever et ils ne l'aiment pas non plus. Donc on va dire simplement ne plus être des Français inclus à exclure. C'est une terminologie qui raconte ce qu'elle raconte. C'est-à-dire qu'au fond, au contraire des autres immigrations, qui ont précédé celle-ci, celle des anciennes colonies. Si les premiers arrivés dans ces italiennes, portugaises, espagnoles, etc., si les premiers ont connu un racisme parfois semblable, ça s'est arrêté à la deuxième génération. Pour ces générations d'enfants issus de ceux que l'on appelle indéfiniment issus de l'immigration, cela, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, donc qu'il y a un vrai travail de fond pour que ça puisse passer. Et je pense que ce qui serait utile, c'est une véritable rencontre avec l'autre. Ben voilà, je dirais, c'est un premier pas. Ces enfants nous parlent, ils nous parlent d'eux, et ils parlent si bien. Voilà.
Merci, Malika.